première fois que je passe ici, j'avais 18 ans.
Et vous, Arthur ?
Moi, j'avais 23 ans.
Ici, il y avait un porte-clé hein, pour nous fouiller. Quand on rentrait par la porte, il nous fouillait depuis en haut jusqu'en bas pour voir s'il y avait quelque chose dans les poches.
Cher Dubagne.
Mon père couchait là et moi je couchais là. Ici dans le bagne, j'ai bien entendu des batailles qu'il y a eu, hein, puis qui se battaient à coup de pied, puis à coup de poing, et puis des fois à coup de couteau. Hein. J'en ai vu aussi.
Guyane française.
Monsieur le ministre des colonies. Veuillez m'excuser à la liberté que je prends à vous adresser cette lettre à titre de réclamation.
Camp de Pariacabo. Nom, Bara. Prénom, Constant. Numéro matricule, 32456. Classe, 3e. Profession, boulanger. À l'attention du ministère des colonies. Administration pénitentiaire.
Et pour vous citer quelques faits que l'administration abuse sur son pouvoir à l'encontre de nous transportés. D'abord, étant boulanger de profession, l'administration ne tient pas compte de ça. Et on m'a filé aux travaux de culture. Et le pain est fait par les Arabes, lesquels, je suis sûr, n'ont jamais mis la main à la pâte. Car à la suite de cette panification, le pain devient immangeable, pain difforme, que de l'eau, sans cuisson, pour équivaler le poids de 750 grammes. Certainement, n'étant point malade, je suis non reconnu par monsieur le médecin-major. Et ça me procure des punitions. Et alors que faire dans ce cas?
J'étais tout condamné, tous les plus grands assassins, toute la basse classe, quoi. On était avec les criminels, des voleurs et toute la clique, quoi. Toute la basse classe.
Je me vois dans l'obligation de ne plus aller au travail nu-pied. Car lorsque la cour d'assises a prononcé ma condamnation de 5 ans de travaux forcés, il n'a point été du tout spécifié que je devrais travailler nu-pied. D'ailleurs, je n'y suis point été élevé à marcher sans souliers comme les Kanaks du pays. J'ai tenu donc, monsieur le ministre, à vous tenir au courant de tout cet état de choses, car je suis sûr et certain que vous devez totalement l'ignorer. Et encore, pour nous, de souliers, il n'y en a point. Mais que contraire se trouve, pour monsieur et mesdames, les contremaîtres transportés, gens qui, pour tout travail, s'occupent fort de la surveillance, choses qui n'ont pas droit, alors que ce sont des transportés comme nous. Pour cela, l'on en trouve à les souiller. Et aussi pour quelques-uns qui s'occupent des emplois de confiance, tels que infirmiers, bureaucrates, cuisiniers, j'en passe. Juste que cela, avec des espadrilles, suffirait. Et nous, que nous allons dans la brousse, c'est qu'à contraire. Encore une fois de plus, je vous prouve, monsieur le ministre, les abus de l'administration. Mais quand donc ce sera tout cela? Ce ne sera certes que lorsque vous vous serez rendu compte de mes dires qui ne sont à juste titre que des vérités et que vous aurez fait ouvrir des enquêtes par vos inspecteurs. Certainement que jusqu'à présent, personne n'a voulu ou n'a osé vous envoyer une telle réclamation. Crainte peut-être que l'administration sévisse dur à leur encontre. Mais moi, défiant tout cela et en pleine confiance à votre justice, je suis persuadé que vous attacherez toute votre attention, toute votre haute bienveillance à seul fait de faire cesser ces abus devenus coutumiers. Et que par cette suite, vous apporterez à nous, malheureux forçats, une situation quelque peu meilleure. Dans l'attente d'amélioration, recevez, monsieur le ministre, l'assurance de mes profonds remerciements respectueux. Le transporter de 3e classe. Bara Constant, numéro 32456.
Sa requête sera rejetée en février 1907. Il meurt quelques mois après, à l'âge de 27 ans.
D'être enfermé comme ça, ce n'est pas une vie non plus. Hein. Surtout celui qui l'a mérité encore, ça va. Mais comme nous autres, ça en avoir.
Louis et Arthur Moreau.
Et puis être puni pour les autres sans savoir pourquoi, ben c'est malheureux quand même. C'est même honteux. Honteux.
Louis et Arthur Moreau ont passé 10 ans de leur vie au bagne. Ils avaient alors 18 et 20 ans. Un conseil de guerre les avait condamnés en 1914 avec toute leur famille pour intelligence avec l'ennemi. Leur mère est morte à la prison de Rennes et leur père au bagne. Toute la famille a été réhabilitée en 1935 par une cour militaire. À leur retour en France, Louis et Arthur reprendront leur travail à la mine.
Jusqu'au dernier soupir, elle ne pourrait jamais l'oublier. Là. Jamais. Déjà depuis 50 ans, je n'ai jamais passé une journée sans y penser, donc ce sera jusqu'au dernier jour. Malgré que je savais que j'étais innocent, mais il ne peut pas prendre l'autorité française, hein, ben c'est une bonne salope, quoi, faut le dire comme ça. Parce que celui qui nous a jugés, ben, je vous assure, peut-être que Dieu les punira peut-être un jour, mais en attendant, c'est moi qui ai compté les conséquences. C'est moi qui ai compté. Et puis que j'ai laissé mon père là, dans la terre.
C'est un miracle que je sois vivant parce qu'un convoi remplace l'autre. Sur 527 venus avec moi il y a 8 ans, nous restons une vingtaine. N'y a-t-il pas là une volonté d'élimination, d'extermination ? Les fagots étaient envoyés à la Guyane pour y crever.
Victor Petit, né en 1879. Déporté à l'âge de 20 ans.
Le plus dur au bagne, c'est pas de supporter les règlements de l'administration, non. C'est de subir continuellement la société environnante. Le bagne, c'est l'image de l'âme humaine passée au rayon X. Et elle est bien laide. L'homme n'ayant plus de respect humain, dépouillé du vernis conventionnel qu'il a en société, ne fait aucun effort pour dissimuler ses vices, les étalant complaisamment comme une gloire. Il n'est pas fardé. Il est nature. Il est férocement jouisseur et égoïste.
Je vous dirai tout d'abord que ma santé a été fortement ébranlée par les 4 mois de cachot, de fer et de pain sec que j'ai subi à Saint-Martin-de-Ré. Que les 20 jours de traversée pour arriver à la Guyane se sont déroulés dans des conditions de nourriture, de chaleur et de misère qui ne pouvaient en rien amener une amélioration. Que depuis mon arrivée ici, je me vois, comme tous les autres d'ailleurs, mourir petit à petit, faute de soins, faute de repos.
Arthur Roch, né en 1852, à Montpellier, non reconnu par son riche père, abandonné par sa mère, il est placé à l'assistance publique. À l'âge de 14 ans, il intègre l'école des mousses de Sète. Lors de son service militaire à 18 ans, il est déserteur lors du siège de Paris, ce qui lui vaut d'être envoyé au bataillon disciplinaire d'Afrique. Il deviendra faussaire, escroc et faux-monnayeur. C'est sur ce dernier motif qu'il est condamné à 10 ans de bagne à l'âge de 50 ans. Libéré à 65 ans après plusieurs tentatives d'évasion, puis soumis à la relégation, il meurt 2 ans plus tard en Guyane.
Les chaleurs torrides de ce pays auquel je ne suis pas fait ont occasionné une éruption de boutons et de furoncles sur tout le corps dont j'ai bien à souffrir. En outre, je suis nuit et jour en nage et dans un état de fièvre permanent qui m'abat au point de ne pas me laisser la force de me traîner. Si j'ajoute qu'une courbature générale de tout le corps et notamment un mal de rein et d'épaule sont le résultat de cet état maladif, vous aurez une légère idée du tribut que je paie depuis 3 mois au climat de la Guyane.
Au bagne, tous les travaux nécessaires à la vie des hommes sont exécutés par les forçats. Il faut bien que l'administration pénitentiaire tienne compte des professions des condamnés pour les placer utilement dans ses services.
Eugène Dieudonné, né à Nancy en 1884, menuisier ébéniste à Paris Faubourg Saint-Antoine. Il n'a de faute que d'avoir fréquenté de loin les cercles anarchistes et se retrouve au bagne suite, semble-t-il, à une erreur judiciaire. Un témoin l'identifie à tort comme le chauffeur de la bande à Bono lors du braquage de la rue Ordonneur. Les protagonistes du braquage le disculpent. Il est pourtant condamné au bagne en 1913 à l'âge de 29 ans. Il s'évade et est gracié à 42 ans.
Les ouvriers d'art iront à l'atelier des travaux de Saint-Laurent, ou de Cayenne, ou de Kourou, des îles du Salut, selon que ces 4 principaux centres en ont plus ou moins besoin. De même pour les boulangers, les jardiniers, les comptables, les bouchers, les tailleurs. Mais il n'y a qu'une minorité de condamnés ayant une profession. La plupart ont fait n'importe quoi dans la vie avant de venir au bagne. Ceux-là seront rétablis au hasard pour combler les listes de forçats réclamées par les différents pénitenciers. Ce hasard du placement à l'arrivée décidera de toute la vie du forçat. Les vénards seront infirmiers, cuisiniers, aide-pharmacien, aide-comptable, aide-magasinier. Les dévénards iront faire les corvées insalubres et exténuantes, dans les camps et les chantiers forestiers ou sur les tronçons des routes. À eux, toutes les intempéries, les fièvres et tous les accidents de la brousse coloniale. Aussi, des intrigues multiples président à la répartition des forçats.
Il y a peu d'intellectuels au bagne. Beaucoup sont illettrés ou lisent comme des machines sans comprendre. C'est l'écume des grandes villes ou des provinciaux, corrompus par les maisons de correction et les bagnes militaires. 7 sur 10 sont passés par des maisons de correction, bataillons d'Afrique, pénitenciers et travaux publics. C'est le gibier lamentable, ignorant, tombant de prison en prison pour vengeance stupide de paysans.
Victor Petit, né à Paris, dans un milieu très pauvre, il est orphelin à 10 ans. ses parents se sont suicidés ne pouvant plus subvenir aux besoins de leurs enfants. Il est remis à l'assistance publique et placé immédiatement dans des fermes dès l'âge de 10 ans. Pour s'en sortir, il devient engagé volontaire dans les chasseurs alpins, mais se rebellera contre le poids de l'autorité qu'il supporte depuis des années et connaîtra les bataillons disciplinaires d'Afrique. C'est en se retrouvant engagé dans la guerre des boxers que sa personnalité hors du commun se révèle. Il ne partage pas les exactions du corps expéditionnaire dont il fait partie. Il déserte, apprend le chinois en quelques mois, se fond dans la population locale, mais il finira par être identifié, arrêté, jugé et déporté en Guyane à l'âge de 20 ans.
Moi qui ai quitté l'école à 12 ans après le certificat d'études, je peux me compter parmi les plus instruits du bagne. Il n'y a pas de quoi se flatter. L'ignorance est le plus grand malheur de tous les forçats. Il existe une entente tacite entre tous les forçats pour favoriser un vol et aider à le dissimuler ensuite. Il est admis qu'il suffit d'avoir vu pour se croire autorisé à participer aux bénéfices. L'entente ne va pas plus loin. Les voleurs cherchent par la suite à se voler entre eux. La solidarité est inconnue. L'égoïsme, la règle générale. Si un forçat, pour une cause quelconque, a du pain en trop, il le vendra. S'il ne peut pas, souvent il préfère le détruire. Dans son esprit, en faire cadeau aujourd'hui, c'est empêcher la vente possible demain. J'ai médité fréquemment cette parole de M. Vérignon, le directeur de l'administration pénitentiaire. S'informant auprès d'un surveillant, de l'usage fait par les transportés du pain pouvant leur rester, le surveillant répondit qu'il le vendait entre eux. Le directeur dit « Ça va bien, mais le jour où ils se le donneront, faudra faire attention. » Ceci a une portée morale allant au-delà du bagne. Si la solidarité existait chez les hommes, il n'y aurait pas de bagne. Parce que pas de forçat. La cause produit l'effet. Aussitôt qu'un convoi arrive à la Guyane, les jeunes sont en butte aux obsessions des anciens, suivant leur caractère. Les uns acceptent les cadeaux préliminaires offerts soi-disant par amitié, les autres refusent et flanquent des coups de poing devant l'insistance.
Les contremaîtres, presque tous arabes ou nègres, traitent avec tendresse et sollicitude les jeunes forçats. Leur font une cour assidue, et sur la promesse d'intimes faveurs, leur accorde douceur, aide et protection. Malheur, par exemple, à celui qui, après avoir prêté l'oreille à ces infâmes insinuations, faillit à l'engagement et ne se plie à l'ignoble commerce.
Auguste Courtois, né en 1862. Déporté à l'âge de 35 ans.
J'ai vu un jeune homme de notre convoi, presque encore un gamin, qui, sur les propositions obscènes d'un forçat contremaître, nommé Ben Kassem, avait accepté les cadeaux de celui-ci et avait ensuite trouvé plaisant de se dérober, sans songer aux conséquences terribles qu'allait entraîner sa résistance. Il assène un formidable coup de matraque sur le crâne du roumi récalcitrant. Celui-ci s'affaissa, évanoui dans un tel état qu'on dut le transporter immédiatement à l'hôpital, qui est à Île-Royale. L'auteur de cet acte de sauvage vengeance ne fut aucunement inquiété.
Nul n'est censé ignorer la loi, rien pour rien. Alors la chose est presque officielle. L'ancien subvient aux besoins de son protégé tant qu'il en a les moyens, ou que n'intervient pas un plus riche protecteur. Le pli est pris. Il n'y a que la première fois qui coûte. Le protégé, dorénavant, passera de main en main comme une pièce de monnaie. Quelques forts gaillards deviennent amants de cœur, mais très peu. La faim étouffe les sentiments. C'est donc pareil à la vie libre. Les plus beaux sujets sont pour les plus fortunés. Les étoiles de première grandeur d'un convoi tombent dans le domaine commun à l'arrivée du convoi suivant. Splendeur éphémère. D'autres, qui ne sont pas tombés au début, cèdent plus tard, vaincus par la misère et l'exemple. La faim est mauvaise conseillère. Seuls les hommes robustes, de crainte de représailles et ne représentant pas l'idéal rêvé, restent indemnes. L'administration pénitentiaire est au courant, aussi bien, sinon mieux que les forçats de toutes ces manœuvres. Elle se garde bien d'y mettre le holà et d'intervenir pour la raison que cette dépravation lui profite. La prostitution diminue de 3/4 le nombre et la possibilité des évasions. En plus, si la dorée ne veut pas s'évader, tant que le ménage est d'accord, l'amoureux ne s'évade pas. Et suivant que l'administration pénitentiaire veut ou peut obtenir de l'amoureux, elle joue avec lui comme le chat avec la souris, l'éloignant ou le rapprochant tour à tour de l'objet de son amour jusqu'à la complète soumission.
Le rêve de la reléguée est d'être tirée du couvent par le mariage. Cela se présente quelquefois. Ce qui donne le titre d'épouse à ces malheureuses, pour la plupart laides et sans âge, sont des Arabes concessionnaires ou libérés. Les Algériens qui convolent dans ces conditions sont sganarélisés, sans vergogne. Ils se vengent de leurs malheurs conjugaux en reconduisant au couvent les femmes qu'ils en ont tirées et qui n'en ressortiront que sur la demande expresse du mari.
On peut se faire une idée des mœurs de Saint-Laurent en disant qu'en dehors du personnel administratif, il y a environ une femme pour 50 hommes. Négresse, à l'usage des fonctionnaires civils et militaires de l'administration pénitentiaire, de la troupe, des libérés pouvant vaquer, payer. Blanche, reléguée ou forçate en très petit nombre, vieux débris, ayant vu maintes batailles et que la faim empêche de se retirer du combat.
Les femmes ne vont plus à la Guyane depuis 1904. Ce fait est significatif. Le forçat ne doit pas se reproduire et coloniser. Il doit périr. Ce n'est pas suffisant de le forcer à se dépraver en cours de peine. Il faut qu'il continue. Même libéré. Tous les soirs, en présence d'un surveillant, on était mis au fer à 5 heures. Ces fers consistaient en boucles qu'une longue barre passant dans les anneaux fermait complètement. Cette barre passait elle-même dans des boucles fixées au lit. Il y avait une barre de chaque côté de la prison, dans le sens de la longueur. Une barre en sens vertical à un bout de la prison, fermant au cadenas du dehors, empêchait de se déférer. Les cases sont faites pour 60 hommes, 30 de chaque côté, ce qui fait une largeur de 70 cm par homme. Mais quand les besoins l'exigent, principalement à l'arrivée des convois de France, on en met 90 ou 100, autant que c'est nécessaire. Et ceux qui n'ont pas de place sur le lit de camp, dorment par terre. Comme matériel, chacun une couverture, plutôt couvre-pied, une vieille boîte à conserve comme gamelle et un baquet d'eau, dont le contenu sert à boire et où chacun vient puiser indistinctement avec des mains et des récipients moins que propres. Cette eau n'est même pas parfois en quantité suffisante pour boire. Les fagots étant envoyés à la Guyane pour y crever et non pour y vivre, c'est sans importance. L'hygiène à la Guyane est aussi inconnue qu'il y a 2000 ans. D'ailleurs, je vois pas pourquoi on chercherait à prolonger la vie dont l'existence entière se passe, bien qu'il travaille, aux dépens du budget de la France.
L'apprentissage élémentaire demande de 8 à 10 jours.
Auguste Courtois, né à Poitiers, il fait un tour de France en tant que peintre décorateur, mais finit vagabond. Ensuite, il devient orateur et écrivain anarchiste et fonde une famille. Il connaît une première condamnation à 25 ans. Une erreur de justice lui permet de réaliser une usurpation d'identité qui aggravera sa condamnation. Il entre au bagne à 35 ans et est gracié à 38 ans en 1899.
En y mettant du sien, on parvient à être promptement au courant. On gagne de l'astuce et de l'endurance. On se débrouille, on s'aguerrit, on finasse. On arrive à connaître à fond la lutte contre la mort. Lutte où l'on n'est pas, hélas, toujours le plus fort. Mais on a pris comme les vieux le pas colonial et cela nous donne quand même un peu de confiance et beaucoup de courage.
Thank you.
Il n'y a pas à hésiter. Il faut agir pour exister ou disparaître. Les audacieux vivent et les hésitants meurent. Où sont le jouet des autres ? Le dernier des ignorants à qui on ferait trier des pommes de terre gâtées aurait la précaution de mettre de côté celles qui sont entièrement pourries. Sur un autre tas, celles ayant une parcelle de bonne et d'un autre côté, celles un peu atteintes. Il ne lui viendrait pas à l'idée de mettre toutes ses pommes de terre dans le même sac, sachant qu'il activera la décomposition du contenant. Les forçats arrivant au bagne, aucune distinction n'est faite entre eux. Que ce soit un enfant de 16 ou de 18 ans, ayant fauté par entraînement, un brave ouvrier ou un cultivateur commettant sa faute dans un instant de haine ou de passion, un condamné militaire pour une vétille avec un passé honorable, tout ira dans le même sac. Ils seront mélangés indistinctement avec les criminels les plus endurcis, les plus invétérés, et la possibilité de ramener ou maintenir ces quelques hommes dans la voie du bien sera irrémédiablement perdue.
J'arrivais donc aux incos, les incorrigibles, comme on dit entre nous dans le camp de Charvin. On me fit me déshabiller, on me remit deux costumes spéciaux, marqués en gros caractères inco, et une couverture, et l'on me mit au cachot. Je restais quelques jours, puis on me gracia du temps qui me restait à faire, et l'on me mit en case avec les autres, une centaine. Le silence était obligatoire. Défense de fumer. Chacun assis à sa place ou couché, mais défendu de circuler. Les cases étaient construites en gros poteaux, ce qui permettait aux surveillants et aux porte-clés qui tournaient autour de la case de ne pas nous perdre de vue un seul instant. Le matin, réveil à 5h30, distribution d'un quart de café. À 6h, appel pour le travail. Il fallait sortir tout nu. L'appel fini, on défilait au travail en tenue d'Ève. Le travail était divisé en deux. Le matin, séance de halage. L'après-midi, culture. Et le soir, coucher au fer.
Jean Bonnardeau, né en 1885. Déporté à l'âge de 26 ans. Né au Creusot avec 14 frères et sœurs, son père meurt lorsqu'il a 15 ans. Il commet dès lors des actes de petite délinquance. Première condamnation pour dégradation de monument public. Il sera acquitté mais fera 3 ans de maison de correction. Ensuite, des vols lui coûtent 6 mois d'emprisonnement. Puis, il semble être envoyé au bataillon d'Afrique à l'âge de 22 ans. Condamné au bagne à 26 ans, il est libéré à 56 ans. Après une dizaine de tentatives d'évasion. Soumis à la relégation, il meurt en Guyane à 70 ans, après avoir ouvert un restaurant.
Rien ne peut, si vous ne l'avez pas vu vous-même, vous donner une idée exacte de ce qu'est une séance de halage. Les condamnés du camp libre, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas punis et qui habitent en dehors des incos sont chargés de faire les tracés des sentiers dans la forêt, d'abattre les gros arbres, les équarrir et les laisser sur place. Il y a un grand tracé central où aboutissent tous les petits tracés qui aboutissent aux arbres abattus pour les sortir sur le grand tracé qui lui aboutit dans un dépôt, appelé dégradé, qui se trouve à l'entrée de la scierie, chargé de débiter ses pièces en planches, en madriers, en chevrons ou linteaux. Or, c'est la corvée des Incos qui est chargée de sortir et d'amener ces pièces de la forêt au dégrade. Selon la grosseur de la pièce, qui varie de 0,5 m jusqu'à 5 m3, le règlement prescrit 15 hommes par mètre cube. Or, une pièce de 2,5 m demande donc une moyenne de 38 hommes pour la tirer. Donc, ces 38 hommes portent ce que l'on appelle la bricole, et celles-ci sont attachées à deux grandes cordes qui, elles, sont attachées à la pièce de bois qu'il faut tirer. Je répète, les hommes sont tout nus. La bricole porte sur la peau même. Escorté par les surveillants, l'arme chargée à la main et les porte-clés armés de sabres, la caravane commence sa sarabande. Il est impossible qu'il existe pire aux enfers. Deux cordes fixées à la pièce de bois sont tendues. Les hommes, la bricole en bandoulière, sont attachés à ces deux cordes, attendent le signal du démarrage. Un Inco, qui lui n'a pas de bricole et libre, remplit les fonctions de chanteur, ou plutôt de crieur. Alors, sur un signe d'un surveillant, se met à crier « Wow, souk !» Sur ce signal, tous les hommes font trois pas en arrière et d'un mouvement brusque, se rejettent en avant. La pièce démarre et voilà les hommes qui avancent sur le tracé, traînant la pièce, en criant pour s'encourager, marchent dans la vase, à travers les chicots, les waras, des troncs de palmiers épineux, sous un soleil de plomb, suant, couvert de vase, car tout autour du tracé, la brousse est abattue et le soleil darde. Cette cavalcade fait des parcours quelquefois de plusieurs kilomètres pour arriver au dégrade. Là, on détache la pièce et, toujours attachée aux cordes, on retourne faire un deuxième tour, puis un troisième, un quatrième, selon la distance à parcourir. Il arrive parfois qu'au démarrage, après le signal, la pièce ne bouge pas. Alors, j'ai assisté moi-même de 6h à midi sur la même pièce sans pouvoir la bouger. Les surveillants étaient furieux et à la rentrée de midi, nous fûmes mis au pain sec. Et pourtant, c'était pas de notre faute car la pièce faisait 3 m3. On aurait dû être 45 aux cordes et nous n'étions que 35. Et parmi nous, il y avait des hommes qui sortaient de faire des mois de cachot et qui tenaient pas debout. Parfois même, ils en tombaient en route. Alors, étant attachés, on les traînait. Si les surveillants ne faisaient pas arrêter la corvée, leur enlever la bricole, les mettre aux menottes, les mains derrière le dos et leur faire suivre la corvée. Parce que, durant ces courses, les surveillants se tenaient de chaque côté sur les petits tracés, les armes à la main, et nous suivaient, ainsi que les porte-clés armés de sabres. Nous rentrions à midi, exténués, fourbus, souvent même on mangeait pas. Voilà pour le travail du matin, le halage. À 1h30, l'appel pour le travail, toujours tout nu. On ne s'habillait qu'en rentrant du travail, donc nous partons au travail aux abattis, sorte de champ. Les uns abattaient les arbres, d'autres tronçonnaient ces arbres, d'autres mettaient tout ce bois en tas pour le brûler, d'autres arrachaient les chicots des arbres abattus, d'autres défonçaient, retournaient le terrain pour planter. Tous ces travaux étaient faits sous le soleil de plomb ou sous la pluie, qui quelquefois tombe en vrai torrent. Et il n'est pas rare de voir dans la même journée 10 fois ce soleil et 10 fois la pluie. Et cela n'arrête pas le travail. Les surveillants, eux, ont des imperméables. Et le ventre plein, ils s'en foutent.
Ici, j'exposerai un cas entre mille qui vous initiera sur la manière dont nous étions traités à cette époque, en 1939. Affecté au chantier forestier, je dois journellement fournir mon stère de bois, abattre mon arbre, le tronçonner, le fendre et l'enterrer à l'endroit assigné. Je me rends le matin, le ventre vide, anémié et apeuré à l'appel du chantier forestier. Malgré ma meilleure volonté, je ne peux faire mon stère. Aussi le soir, à l'appel de 5 heures, je suis monté aux prisons, mis à poil pour la fouille, gratifié d'une bastonnade par le porte-clés des prisons, protégé par des surveillants qui vous ruinent de coups.
Ce vagabond est crevé à Cayenne. Libéré. Que le bon Dieu le prenne en pitié.
Le baston terminé, enfermé 4 jours dans un cachot sans manger et sans boire. Le 5e jour, on vous renvoie au chantier forestier. Et si le ster n'est pas fait, vous remettez ça pour 4 jours de diète. L'homme, exténué, à la 2e punition, se fait porter malade et arrive l'ambulance devant le médecin militaire. Le médecin Guillou, qu'il reçoit avec un gros rire sur ses doubles bajoux et ironise en vous demandant « Qu'y a-t-il pour votre service ?» Le squelette vivant essaye d'apitoyer ce charlatan et qu'il renvoie... avec 4 jours de diète médicale et à maintenir au chantier forestier.
Henri Marty, né en 1904, déporté à l'âge de 31 ans. Voleur de bicyclette, ivrogne, proxénète, auteur d'abus de confiance, suite à l'accumulation de toutes ses condamnations, il écope de la relégation collective à perpétuité. Il arrive au bagne en 1935 à l'âge de 31 ans, et perd la raison 6 ans plus tard.
Ma vie ne suffirait pas à révéler toutes les atrocités dont les condamnés ont été les victimes. S'étonnera-t-on qu'avec de pareils traitements, on n'a jamais rien pu faire de ces hommes qui n'avaient qu'un but, s'évader, pour se soustraire à cet enfer qu'était le bagne.
Je fus désigné pour la corvée de la briqueterie. Située sur un plateau d'un hectare à 300 mètres du fleuve et entourée de marécages à 1 km de Saint-Laurent. La corvée partait le matin, elle rentrait le soir. À tour de rôle, un homme allait avec une brouette toucher au camp les vivres pour la corvée. L'endroit était très malsain et il fallait travailler continuellement dans l'eau. Je résolus d'aviser à ne pas y moisir.
C'est la nature qui garde le forçat. Beaucoup plus que l'administration pénitentiaire. Et rend les évasions si difficiles, si périlleuses, souvent mortelles.
La chaloupe nous ramena à Saint-Laurent. La fièvre fit des progrès rapides, compliqué de dysenterie. Au bout d'un mois, je passais devant la commission disciplinaire pour ma deuxième évasion, celle de la briqueterie. Je récoltais 30 jours de cachot que je fis dès le soir même. Le cachot est un trou. De 5 mètres cubes d'air de contenance. Cet air se renouvelle, s'il a envie, par 12 trous de 1 cm de diamètre percés dans la porte, avec 2 jours de pain sec sur 3. C'est la vraie guillotine sèche. En sortant du cachot, l'humidité m'avait donné le scorbut. Je perdis plusieurs dents et mes articulations étaient violettes. En plus de porter des effets passant indistinctement depuis des années sur des générations de forçats, j'ai dit qu'ils sont faits de toile à voile. J'avais attrapé la gale. Mon corps était couvert de croûte. Quelques jours après, le médecin m'envoya à l'hôpital où je fus admis à la salle des consignés, c'est-à-dire enchaîné nuit et jour. On ne défère un homme que pour retourner en prison ou aller au cimetière. Les punis ne pouvant être soignés que dans la salle des consignés et l'emplacement étant très restreint, le major me dit le 8e jour que, quoique n'étant pas guéri, il était obligé de me mettre exéate pour faire place à plus malade que moi. La gale était guérie, le reste, fièvre, dysenterie et scorbut, à l'état latent. Je retournais donc en cellule. La semaine suivante, le major me renvoya à l'hôpital. J'étais si enflé par l'anémie que l'on me transporta dans une brouette. Il était écrit que je ne mourrais pas cette fois-là.
des vieux, nous apprenons la façon de rendre à peu près mangeables les vivres avariés qui forment notre ordinaire. Ils nous enseignent également la manière de se procurer parfois un petit supplément d'eau potable. Une des choses les plus précieuses pour le forçat qui vit aux îles du Salut. Par eux encore, nous arrivons à monter notre service de table. L'administration doit fournir à chaque homme qui lui est confié une gamelle, un gobelet ou quart, une cuillère et un couteau. Mais ces objets, quoique de première nécessité, nous sont et nous demeurerons inconnus. Donc, ni table, ni banc, ni vaisselle, ni ustensiles. Rien. Comment procède-t-on ? De la façon la plus élémentaire du monde. Deux fois par semaine, on touche du bœuf de conserve, du singe, comme disent les difficiles. Il est contenu dans des boîtes métalliques de 3 kg, qu'on garde une fois vide, qu'on nettoie et qu'on passe au sable. Une de ces boîtes sera gamelle, une semblable servira de réservoir à eau. Quant au quart, il sera remplacé par une boîte de conserve fine sortie des cuisines de messieurs nos administrateurs et que les plus dégourdis auront été cherchés dans les ordures.
Ce que nous percevons comme ration journalière, sauf le pain qui est mangeable, se réduit à rien, ou à presque rien, et de si mauvaise qualité que le manger serait vouloir abréger sa vie. La viande de bœuf qu'on nous donne est pourrie d'ulcères et d'autres agréments qui en font un objet de dégoût. La viande de conserve vous donne des nausées. Le lard salé soulève le cœur et les haricots secs, qui font notre repas quotidien du soir, sont tellement moisis que personne n'y touche.
Pour les légumes secs, la mauvaise qualité est la règle. Les légumes sont moisis, agglutinés à l'intérieur des barriques et presque toujours immangeables. Et la ration entière, 60 grammes, déjà bien mince, ne parvient pas à arriver complète à la case. Le sein doux, 4 grammes par jour et par homme, suivant l'expertise des médecins militaires, contient de tout sauf du sein doux. Il doit être mis dans la marmite en présence du surveillant. Le condamné cuisinier le met effectivement, seulement il oublie d'ouvrir la boîte. Et sitôt que le surveillant a le dos tourné, il la repêche pour la vendre. Le pain, 700 grammes par jour, est le meilleur de la ration. La farine est souvent échauffée et pleine de charançons, et une trop grande partie de la farine est remplacée par de l'eau. Voilà les éléments de la ration des transportés d'un bout de l'année à l'autre. La Guyane est bien une colonie de consommation. On réalise même un double but. Car non seulement le condamné ne doit pas vivre, mais il ne doit pas produire. Que deviendraient les fournisseurs intermédiaires et administrateurs, champignons poussés sur la pourriture du système pénal, si comme cela était possible et même facile, les fagots produisaient pour eux et leur état-major? Où ferait-on passer ces marchandises avariées et invendables? Où ferait-on les bénéfices innommables réalisés de part et d'autre pour l'acceptation de ces marchés honteux? Il est certainement plus profitable pour certaines gens d'acheter les bœufs au Venezuela à une distance de 1500 km que de les faire élever sur les territoires du pénitencier. Qui donc posera la question au peuple français? Sommes-nous gouvernés ou sommes-nous pillés?
Un pareil régime a existé de tout temps. et quelles que soient les réclamations que l'on ait pu adresser en haut lieu, jamais on ne l'a modifiée. C'est donc une habitude à prendre. Et comme il ne s'agit de rien de moins que d'une mort lente, mais sûre, par inanition, par consomption et par anémie, chacun prend son mal en patience, moi comme les autres.
Chair du bagne. Un documentaire de création d'Éric Cordier. Équipe de réalisation, Pierrick Charles, Nathalie Salle. Avec les voix de
Anne Stephens, Antoine Reynartz, Guillaume Potier, Jean-François Néolier, Olivier Augron, Zachary Laurent.
Musique Éric Cordier, coordination Chouchan Djergaïan, Irène Omelianenko. Création en air 2017.